Germini la Certeux, chapitre 50. Comme Germini rentrait un matin au petit jour, elle entendit, dans l'ombre de la porte cochère refermée sur elle, une voix lui crier « Qui va là ?» Elle se jeta dans l'escalier de service, mais elle se sentit poursuivie et bientôt saisie à un tournant de palier par la main du portier. Aussitôt qu'il l'eut reconnue, « Ah ! » dit-il. « Excusez, c'est vous, ne vous gênez pas. En voilà une noceuse. Ça vous étonne, hein, de me voir sur pied si matin ? C'est pour le vol qu'on a fait ces jours-ci dans la chambre de la cuisinière du second. Allons, bonne nuit. Vous avez de la chance, par exemple, que je ne sois pas bavard. » Quelques jours après, Germini apprit par Adèle que le mari de la cuisinière volée disait qu'il n'y avait pas à chercher bien loin, que la voleuse était dans la maison, qu'on savait ce qu'on savait. Adèle ajouta que cela remuait beaucoup dans la rue et qu'il y avait des gens pour le répéter, pour le croire. Germini, indignée, alla tout conter à sa maîtresse. Mademoiselle, indignée plus qu'elle et personnellement touchée de son injure, écrivit sur l'heure à la maîtresse du domestique qu'elle eut à faire cesser immédiatement les calomnies dirigées contre une fille qu'elle avait chez elle depuis 20 ans et dont elle répondait comme d'elle-même. Le domestique fut réprimandé. Dans sa colère, il parla encore plus fort. Il cria et répandit pendant plusieurs jours dans toute la maison son projet d'aller chez le commissaire de police et de faire demander par lui à Germini avec quel argent elle avait meublé le fils de la crémière, avec quel argent elle lui avait acheté un remplaçant, avec quel argent elle payait les dépenses des hommes qu'elle avait. Toute une semaine, la terrible menace pesa sur la tête de Germini. Enfin, le voleur fut découvert et la menace tomba. Mais elle avait eu son effet sur la pauvre fille. Elle avait fait tout son mal dans ce cerveau trouble où, sous l'affluence et la soudaine montée du sang, la raison chancelait, se voilait au moindre choc de la vie. Elle avait bouleversé cette tête, si prompte à s'égarer dans la peur ou la contrariété, perdant si vite le jugement, le discernement, la netteté de vue et d'appréciation des choses, se grossissant tout elle-même, se jetant aux alarmes folles, aux prévisions mauvaises, aux perspectives désespérées, touchant à ses terreurs comme à des réalités, et à tout moment perdue dans le pessimisme de cette espèce de délire au bout duquel elle ne trouvait que cette phrase et ce salut. « Bah, je me tuerai !» Toute la semaine, la fièvre de son cerveau la fit passer par toutes les péripéties de ce qu'elle s'imaginait devoir arriver. Le jour, la nuit, elle voyait sa honte exposée, publique. Elle voyait son secret, ses lâchetés, ses fautes. Tout ce qu'elle portait caché sur elle et cousu dans son cœur, elle le voyait montré, étalé, découvert. Découvert par mademoiselle. Ses dettes pour Jupillon, augmentées de ses dettes de boisson et de mangeaille pour Gautruche, de tout ce qu'elle achetait maintenant à crédit, ses dettes chez le portier, chez les fournisseurs, allaient éclater et la perdre. Un froid à cette pensée lui passait dans le dos. Elle sentait mademoiselle la chasser. Toute la semaine, elle se figura, à toutes les minutes de sa pensée, être devant le commissaire de police. 8 jours entiers, elle roula cette idée et ce mot, la justice. La justice, telle que cela figure l'imagination des basses classes, quelque chose de terrible, d'indéfini, d'inévitable, qui est partout et dans l'ombre de tout, une toute puissance de malheur qui apparaît vaguement dans le noir de la rouge d'un juge, entre le sergent de ville et le bourreau, avec les mains de la police et les bras de la guillotine. Elle, qui avait tous les instincts de ces terreurs de peuple. Elle qui répétait souvent qu'elle aimerait mieux mourir que d'aller en justice. Elle s'apparaissait, assise sur un banc, entre des gendarmes, dans un tribunal, au milieu de tout ce grand inconnu de la loi, dont son ignorance lui faisait une épouvante. Toute la semaine, ses oreilles entendirent dans l'escalier des pas qui venaient l'arrêter. La secousse était trop forte pour des nerfs aussi malades que les siens. L'ébranlement moral de ces 8 jours d'angoisse la jetait et la livrait à une idée qui n'avait fait jusque-là que tourner autour d'elle, l'idée du suicide. Elle se mettait à écouter, la tête dans les deux mains, ce qui lui parlait de délivrance. Elle laissait venir à son oreille ce bruit doux de la mort qu'on entend derrière la vie, comme une chute lointaine de grandes eaux qui tombent en s'éteignant dans du vide. Les tentations qui parlent au découragement de tout ce qui tue si vite et si facilement, de tout ce qui ôte la souffrance avec la main, la sollicitaient et la poursuivaient. Son regard s'arrêtait et traînait autour d'elle sur toutes les choses qui peuvent guérir de la vie. Elle y habituait ses doigts, ses lèvres. Elle les touchait, les maniait, les approchait d'elle. Elle y cherchait l'essai de son courage et l'avant-goût de sa mort. Pendant des heures, elle restait à la fenêtre de sa cuisine, les yeux fixés au bas des 5 étages sur les pavés de la cour, des pavés qu'elle connaissait, qu'elle eût reconnus. À mesure que le jour baissait, elle se penchait davantage, se pliait toute sur la barre mal affermie de la fenêtre, espérant toujours que cette barre allait crouler et l'entraîner, priant pour mourir, sans avoir besoin de cet élancement désespéré dans l'espace dont elle ne se sentait pas la force. « Mais tu vas tomber !» lui dit un jour mademoiselle en la reprenant par la jupe d'un premier mouvement effrayé. « Qu'est-ce que tu regardes donc dans la cour ?»«
Moi, rien, les pavés. »
« Voyons, es-tu folle? Tu m'as fait une peur !»«
Oh, on ne tombe pas comme ça !» dit Germinie avec un accent singulier. « Allez, pour tomber, mademoiselle, il faut une fière envie !»
Chapitre 51. Germinie n'avait pu obtenir que Gautruche, poursuivi par une ancienne maîtresse, lui donna la clé de sa chambre. Quand il n'était pas rentré, elle était obligée de l'attendre en bas, dehors, dans la rue, la nuit, l'hiver. Elle se promenait d'abord de long en large devant la maison. Elle passait et repassait, faisait 20 pas, revenait. Puis, comme si elle allongeait son attente, elle faisait un tour plus long et, allant toujours plus loin, finissait par toucher aux 2 bouts du boulevard. Elle marchait ainsi souvent des heures, honteuse et crottée, sous le ciel brouillé, dans la suspecte horreur d'une avenue de barrières et de l'ombre de toutes choses. Elle suivait les maisons rouges des marchands de vin, les tonnelles nues, les treillages de guinguettes étayées des arbres morts qu'ont les fosses aux ours, les masures basses et plates trouées au hasard de fenêtres sans persiennes, les fabriques de casquettes où l'on vend des chemises, les hôtels sinistres où l'on loge à la nuit. Elle passait devant des boutiques fermées, scellées, noires de faillite, devant des pans de murs maudits, devant des allées noires barrées de fer, devant des fenêtres murées, devant des entrées qui semblaient mener à ces logements de meurtre dont on fait passer le plan en cour d'assises à messieurs les jurés. C'était, à mesure qu'elle allait, des jardinets mortuaires, des bâtisses de guingois, des architectures ignobles, de grandes portes cochères moisies, des palissades enfermant dans un terrain vague l'inquiétante blancheur des pierres la nuit, des angles de bâtisses aux puanteurs salpêtrées, des murs salis d'affiches honteuses et de lambeaux d'annonces déchirés, où la publicité pourrie était comme une lèpre. De temps en temps, à un brusque tournant, des ruelles s'ouvraient, qui semblaient à quelques pas s'enfouir dans un trou, et d'où sortait un souffle de cave. Des culs-de-sac mettaient sur le bleu du ciel la rigidité noire d'un grand mur. Des rues montaient vaguement, où suintait de loin en loin, sur le plâtre blafard des maisons, la lueur d'un réverbère. Germinie continuait à aller. Elle battait tout l'espace, où la crapule saoule ses lundis et trouve ses amours, entre un hôpital, une tuerie et un cimetière. La Riboisière, l'abattoir et Montmartre. Les passants qui passent là, l'ouvrier qui remonte de Paris en sifflant, l'ouvrière qui revient, sa journée finie, les mains sous les aisselles pour se tenir chaud, la prostituée en bonnet noir qui erre, la croisait et la regardait. Les inconnus avaient l'air de la reconnaître. La lumière lui faisait honte. Elle se sauvait de l'autre côté du boulevard et longeait contre le mur de ronde la chaussée ténébreuse et déserte. Mais elle en était bientôt chassée par d'horribles ombres d'hommes et des mains brutalement amoureuses. Elle voulait s'en aller. Elle s'injuriait au-dedans d'elle. Elle s'appelait lâche et misérable. Elle se jurait que c'était le dernier tour, qu'elle irait encore jusqu'à cet arbre, et puis que ce serait tout, que s'il n'était pas rentré, c'était fini, elle s'en irait. Et elle ne s'en allait pas. Elle marchait toujours. Elle attendait toujours. Plus dévorée à mesure qu'il tardait, du désir et de la fureur de le voir. À la fin, les heures s'écoulant, le boulevard se dégarnissant de passants, Germinie, épuisée, éreintée de fatigue, se rapprochait des maisons. Elle se traînait de boutique en boutique, elle allait machinalement là où brûlait encore du gaz, et elle restait stupide devant le flamboiement des devantures. Elle s'étourdissait les yeux, elle tâchait de tuer son impatience en les bêtant. Ce qu'on voit au travers des carreaux suants des marchands de vin, les batteries de cuisine, les bols de punch étagés entre deux bouteilles vides d'où sort un brin de laurier, les vitrines où les liqueurs mettent leur couleur dans un éclair, une chope pleine de petites cuillères de Ruholtz, cela l'arrêtait longuement. Elle épelait les vieux arrêtés de tirage de loterie placardés au fond d'un cabaret, les annonces de Gloria, les inscriptions portant en lettres jaunes « Vin nouveau, pur sang, 70 centimes ». Elle regardait un quart d'heure une arrière-salle où était un homme en blouse, assis sur un tabouret devant une table. Un tuyau de poêle, une ardoise et deux plateaux noirs au mur. Son regard fixe et perdu allait, au travers d'une buée rousse, à des silhouettes troubles de schumacs penchés sur leurs établis. Ils tombaient et s'oubliaient sur un comptoir qu'on lavait, sur deux mains qui comptaient les sous de la journée, sur un entonnoir qu'on récurait, sur un broc qu'on passait au gré. Elle ne pensait plus. Elle demeurait là, clouée et faiblissante, sentant son cœur s'en aller de la fatigue d'être sur ses pieds, ne voyant plus que dans une sorte d'évanouissement, n'entendant plus que dans un bourdonnement les fiacres embouées roulant sur le boulevard mou, prête à tomber et forcée par instant de s'étayer de l'épaule au mur. Dans l'état d'ébranlement et de maladie où elle était, avec cette demi-hallucination du vertige qui la rendait si peureuse de passer la Seine et la faisait se cramponner aux balustrades des ponts, il arrivait que certains soirs, lorsqu'il pleuvait, ces défaillances qu'elle avait sur le boulevard extérieur prenaient les terreurs d'un cauchemar. Quand la flamme des réverbères, tremblante dans une vapeur d'eau, allongeait et balançait, comme dans le miroitement d'une rivière, son reflet sur le sol mouillé, quand les pavés, les trottoirs, la terre semblaient disparaître et mollir sous la pluie, et que rien ne paraissait plus solide dans la nuit noyée, la pauvre misérable, presque folle de fatigue, croyait voir se gonfler un déluge dans le ruisseau. Un mirage d'épouvante lui montrait tout à coup de l'eau tout autour d'elle, de l'eau qui marchait, de l'eau qui s'approchait de partout. Elle fermait les yeux, n'osait plus bouger, craignait de sentir son pas glisser sous elle, se mettait à pleurer,
et pleurait jusqu'à ce que quelqu'un passât et voulût bien lui donner le bras jusqu'à l'autel de la petite main bleue. Chapitre 52. Elle montait alors dans l'escalier. C'était son dernier refuge. Elle s'y sauvait de la pluie, de la neige, du froid, de la peur, du désespoir, de la fatigue. Elle montait et s'asseyait sur une marche contre la porte fermée de Gautruche, serrait son châle et sa jupe pour laisser passage aux allants et venants le long de cette raide échelle, ramassait sa personne et se rencognait pour rapetisser sur l'étroit palier la place de sa honte. Des portes ouvertes sortaient et se répandaient sur l'escalier l'odeur des cabinets sans air, des familles tassées dans une seule chambre, l'exhalaison des industries malsaines, les fumées graisseuses et animalisées des cuisines de réchaud chauffées sur le carré. Une puanteur de loque, l'humide fadeur de linge séchant sur des ficelles. La fenêtre au carreau cassé que Germinie avait derrière elle lui envoyait la fétidité d'un plomb où toute la maison vidait ses ordures et son fumier coulant. À tout moment, sous une bouffée d'infection, son cœur se levait. Elle était obligée de prendre dans sa poche un flacon d'eau de mélisse qu'elle avait toujours sur elle et d'en boire une gorgée pour ne pas se trouver mal. Mais l'escalier avait, lui aussi, ses passants. D'honnêtes femmes d'ouvriers remontaient avec un boisseau de charbon ou le litre du souper. Elle la frôlait du pied, et tout le temps qu'elle mettait à monter, Germinie sentait leurs regards de mépris tourner autour de la cage de l'escalier et l'écraser de plus haut à chaque étage. Des enfants, des petites filles en fanchons qui passaient dans l'escalier noir avec la lumière d'une fleur, des petites filles qui lui faisaient revoir, comme la lui montraient souvent ses rêves, sa petite fille vivante et grandie. Elle les voyait s'arrêter à la regarder, avec de grands yeux qui se reculaient d'elle. Puis les petites se sauvaient et s'essoufflaient à monter. Et quand elles étaient tout en haut, se penchant presque par-dessus la rampe, elle lui jetait des sottises impures, des injures d'enfants du peuple. L'insulte, crachée par ses bouches de rose, tombait sur Germinie plus douloureusement que tout. Elle se soulevait à demi, un moment, puis, accablée, s'abandonnant, elle retombait sur elle-même, et remontant son tartan sur sa tête pour s'y cacher et s'y ensevelir, elle restait comme une morte, affaissée, inerte, insensible, repliée sur son ombre, pareille à un paquet jeté et sur lequel tout le monde pouvait marcher, n'ayant plus de sens, ne vivant plus de tout le corps que pour un bruit de pas qu'elle écoutait venir et qui ne venait pas. Enfin, après des heures qu'elle ne pouvait pas compter, il lui semblait entendre, dans la rue, un trébuchement de pas. Puis une voix avinée montait l'escalier en bégayant « Canaille ! Canaille et de marchand de vin ! Tu m'as vendu du vin qui saoule !» C'était lui. Et presque tous les jours recommençait la même scène. « Ah, t'étais là, ma Germinie ! » disait-il en la reconnaissant. « Voilà ce que c'est, je vais te dire. On s'est un peu submergé. » Et mettant la clé dans la serrure, « Je vais te dire, c'est pas ma faute !» Il entrait, repoussait d'un coup de pied une tourterelle aux ailes rognées qui sautillait en boitant, et, fermant la porte, « Vois-tu, ce n'est pas moi, c'est Paillon, tu sais bien, Paillon, ce petit gros qui est gras comme un chien de fou. Eh bien, c'est lui, vrai d'honneur, il a voulu me payer 1 litre à 16. » Il m'a offert l'honnêteté, j'y ai refaire la politesse. Là-dessus, naturellement, nous avons consolé notre café. Consolé, consoleras-tu? Et d'alors en alors, nous nous sommes tombés dessus. Un carnage de possédés. À preuve que ce carcan de marchand de vin
nous a jetés à la porte comme des épluchures d'homard. »
Germinée, pendant l'explication, avait allumé la chandelle fichée dans un chandelier de cuivre jaune. À la lueur de la lumière vacillante, apparaissait le sale papier de la chambre, couvert de caricatures du charivari, déchirées du journal et collées au mur.
« Tiens, t'es un amour !»
lui disait Gautruche en lui voyant poser sur la table un poulet froid et trois bouteilles de vin.
« Car, faut te dire, pour ce que j'ai dans l'estomac, un méchant bouillon, voilà tout.
Ah, celui-là, il aurait fallu un fier maître d'armes pour lui crever les yeux. » Et il se mettait à manger. Germinie buvait, les coudes sur la table, en le regardant. Et son regard devenait noir.
« Bon, toutes les négresses sont mortes !»
faisait à la fin Gautruche en égouttant une à une les bouteilles.
« Au dodo, les enfants !»
Et c'était, entre ces deux êtres, des amours terribles, acharnés et funèbres, des ardeurs et des assouvissements sauvages, des voluptés furieuses, des caresses qui avaient les brutalités et les colères du vin, des baisers qui semblaient chercher le sang sous la peau comme la langue d'une bête féroce, des anéantissements qui les engloutissaient et ne leur laissaient que le cadavre de leur corps. À cette débauche, Germinie apportait je ne sais quoi de fou, de délirant, de désespéré, une sorte de frénésie suprême. Ses sens exaspérés se retournaient contre eux-mêmes, et, sortant des appétits de leur nature, ils se poussaient à souffrir. La satiété les usait, sans les éteindre. Et dépassant l'excès, ils se forçaient jusqu'au déchirement. Dans le paroxysme d'excitation où était la malheureuse créature, sa tête, ses nerfs, l'imagination de son corps enragé, ne cherchaient plus même le plaisir dans le plaisir, mais quelque chose au-delà, de plus âpre, de plus poignant, de plus cuisant. La douleur dans la volupté. Et à tout moment, le mot « mourir » s'échappait de ses lèvres serrées, comme si tout bas, elle invoquait la mort et cherchait à l'étreindre dans les agonies de l'amour. Quelquefois, la nuit, tout à coup, se dressant sur le bord du lit, elle mettait ses pieds nus sur le froid du carreau et restait là, farouche, penchée sur ce qui respire dans une chambre qui dort. Et peu à peu, ce qui était autour d'elle, l'obscurité de l'heure, semblait l'envelopper. Elle se paraissait à elle-même tombée, roulée dans l'inconscience et l'aveuglement de la nuit. La volonté de ses idées s'éteignait. Toutes sortes de choses noires, ayant comme des ailes et des voix, lui battaient contre les tempes. Les sombres tentations qui montrent vaguement le crime à la folie lui faisaient passer devant les yeux, tout près d'elle, une lumière rouge, l'éclair d'un meurtre. Et il y avait dans son dos des mains qui la poussaient, par derrière, vers la table sur laquelle étaient les couteaux. Elle fermait les yeux, bougeait un pied, puis, ayant peur, se retenait au drap. Et à la fin, se retournant, elle retombait dans le lit et renouait son sommeil au sommeil de l'homme qu'elle avait voulu assassiner. Pourquoi ? Elle ne le savait. Pour rien, pour tuer. Et ainsi, jusqu'au jour, dans le mauvais cabinet garni, se débattait la rage et la lutte de ses mortels amours, tandis que la pauvre colombe, éclopée et boiteuse, l'infirme oiseau de Vénus, niché dans un vieux soulier de Gautruche, jetait de temps en temps, en s'éveillant au bruit, un roucoulement effaré. Chapitre 53. Dans ce temps-là, Gautruche fut un peu dégoûté de boire. Il venait d'éprouver la première atteinte de la maladie de foie qui couvait depuis longtemps dans son sang brûlé et alcoolisé,
sous le rouge briqueté de ses pommettes. Les affreuses souffrances qui lui avaient mordu le côté et tordu le creux de l'estomac pendant une huitaine de jours lui avaient fait faire des réflexions. Il lui était venu, avec des résolutions de sagesse, des idées d'avenir presque sentimentales. Il s'était dit qu'il fallait mettre un peu plus d'eau dans sa vie s'il voulait faire de vieux os. Pendant qu'il se retournait dans son lit et qu'il se pelotonnait, les genoux remontés pour moins souffrir, il avait regardé son taudis, ses quatre murs où il remisait ses nuits, où il rentrait le soir ses ivresses, quelquefois sans chandelle, dont il se sauvait le matin au jour. Et il avait pensé à se faire un intérieur. Il avait pensé à une chambre où il aurait une femme qui lui ferait un bon pot-au-feu, le soignerait s'il était souffrant, raccommoderait ses affaires, tiendrait son linge en état, l'empêcherait d'aller recommencer une ardoise chez un marchand de vin. Une femme, enfin, qui aurait pour lui tous les bons côtés du ménage, et qui par là-dessus ne serait pas une bête, le comprendrait, rirait avec lui. Cette femme était toute trouvée, c'était Germinie. Elle devait avoir un petit magot, quelques sous d'amasser depuis le temps qu'elle servait chez sa vieille demoiselle. Et avec ce qu'il gagnait, lui, il vivrait à l'aise et boulotterait. Il ne doutait pas de son consentement. Il était sûr d'avance qu'elle accepterait. Et d'ailleurs, ses scrupules, si elle en avait, ne résisterait pas à la perspective du mariage qu'il comptait lui faire luire au bout de leur liaison. Un lundi, elle venait d'arriver chez lui. « Dis donc, Germinie, » commença Gautruche, « qu'est-ce que tu dirais de ça, hein? Une bonne chambre? Pas comme ce bahut-là, une vraie, avec un cabinet, à Montmartre, et deux fenêtres, rien que ça, rue de l'Empereur. Avec une vue qu'un Anglais vous en donnerait 5 000 francs pour l'emporter. Enfin, quelque chose de chouette et de gai, qu'on y passerait toute la journée sans s'embêter. Parce que moi, je vais te dire, je commence à en avoir assez de déménager pour changer de puce. Et puis, ce n'est pas tout ça. Je m'embête d'être branché en garni. Je m'embête d'être tout seul. Les amis, c'est pas une société. Ils vous tombent comme des mouches dans votre verre, quand c'est vous qui payez. Et puis voilà. D'abord, je ne veux plus boire. Vrai de vrai, que je ne veux plus, tu verras. Tu comprends que je ne veux pas me payer cette existence-là à m'en faire crever. Pas de ça. Attention, il ne faut pas s'abîmer le coco. Il me semblait ces jours-ci que j'avais avalé des tire-bouchons. Et je n'ai pas envie de frapper au monument encore tout de suite. Alors, de fil en aiguille, voilà ce qui m'a poussé. Je vais faire la proposition à Germinie. Je me fendrai d'un peu de mobilier. Toi, tu as ce que tu as dans ta chambre. Tu sais que je ne suis pas trop feignant. Je n'ai pas du poil dans la main pour l'ouvrage. Puis, on pourrait voir à n'être pas toujours à travailler pour les autres, à prendre une boîte de cambrousier. Toi, si tu avais quelque chose de côté, ça aiderait. Nous nous mettrions ensemble, gentiment, quitte à nous faire régulariser un jour devant monsieur le maire. Ce n'est pas si bête, tout ça, hein, ma grosse, n'est-ce pas? Et on va un peu quitter sa vieille de ce coup-là, pas vrai, pour son vieux chéri de Gautruche? Germinie, qui avait écouté Gautruche, la tête avancée vers lui, le menton appuyé sur la paume de la main, se renversa dans un éclat de rire strident. « Tu as cru? Et tu me dis ça comme ça? Tu as cru que je la quitterais, elle, mademoiselle? Vrai, tu l'as cru? Tu es bête, sais-tu? Mais tu aurais des 1000 et des 100, tu serais tout cousu d'or, entends-tu? Tout cousu? C'est de la farce, hein? Mademoiselle, mais tu ne sais donc pas, je ne t'ai pas dit... Ah, je voudrais bien qu'elle meure et que ses mains-là ne soient pas là pour lui fermer les yeux. Il faudrait voir. Voyons, là vraiment, tu l'as cru? Dame, je m'étais figuré, de la façon que tu étais avec moi,
Je croyais que tu tenais plus à moi que ça. Enfin, que tu m'aimais. »
fit le peintre, démonté par l'ironie terrible et sifflante des paroles de Germinie.
Tu croyais encore ça? Que je t'aimais?
Et comme si tout à coup elle arrachait du fond de son cœur le remords et la plaie de ses amours.
Eh bien oui, tiens, je t'aime comme tu m'aimes là, autant et voilà tout. Je t'aime comme ce qu'on a sous la main et dont on se sert parce que c'est là. J'ai l'habitude de toi comme d'une vieille robe qu'on remet toujours. Voilà comme je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que je tienne à toi? Toi ou un autre? Je te demande un peu ce que ça peut me faire. Car enfin, qu'est-ce que tu as été plus qu'un autre pour moi? Eh bien oui, tu m'as prise. Et après, c'est-il assez pour que je t'aime? Mais qu'est-ce que tu m'as donc fait pour m'attacher? Veux-tu me le dire? M'as-tu jamais sacrifié un verre de vin? As-tu eu seulement pitié de moi quand je trimais dans la boue, dans la neige, au risque de crever? Ah, bien oui. Et ce qu'on me disait, ce qu'on me crachait sur la tête, que mon sang ne faisait qu'un bouillon d'un bout à l'autre. Tout ce que j'ai mangé d'affront à t'attendre, c'est toi qui t'en fichais pas mal. Allons donc. C'est qu'il y a longtemps que je veux te dire tout ça, et que j'en ai gros, là, va. Voyons, dit-elle avec un sourire atroce. « Est-ce que tu crois que tu m'as rendue folle avec ton physique, avec tes cheveux, que tu n'as plus, avec cette tête-là ? Plus souvent, je t'ai pris. J'aurais pris n'importe qui. J'étais dans mes jours où il me faut quelqu'un. Je ne sais plus, alors, je ne vois plus. Ce n'est plus moi qui veux. Je t'ai pris parce qu'il faisait chaud, tiens. »
Elle se tut un instant.
« Va toujours, dit Gautruche. « Aplatis-moi sur toutes les coutures. Ne te gêne pas pendant que tu y es. »«
Hein ?» reprit Germinie.
« Comme tu te figurais que j'allais être enchantée de me mettre avec toi. Tu te disais, cette bonne bête-là, va-t-elle être contente? Et puis, je n'aurai qu'à lui promettre de l'épouser. Elle laissera sa place en plan. Elle lâchera sa maîtresse. Voyez-vous ça, mademoiselle? Mademoiselle qui n'a que moi. Ah, tiens, tu ne sais rien. Et puis, tu ne comprendrais rien. Mademoiselle, qui est tout pour moi. Mais depuis ma mère, je n'ai eu qu'elle. Je n'ai trouvé qu'elle de bonne. Sauf elle, qu'est-ce qui m'a dit quand j'étais triste? Tu es triste. Et quand j'étais malade? Tu es malade? Personne. Il n'y a eu qu'elle. Rien qu'elle pour me soigner, pour s'occuper de moi. Tiens, toi qui parles d'aimer pour ce qu'il y a entre nous. Ah, voilà quelqu'un qui m'a aimé, mademoiselle. Oh oui, aimé. Et je meurs de ça, sais-tu, d'être devenue une misérable comme je suis, une... Elle dit le mot. Et de la tromper, de lui voler son affection, de la laisser toujours m'aimer comme sa fille, moi. Ah, si jamais elle apprenait quelque chose. Va, sois tranquille, ça ne serait pas long. Il y en a une qui ferait un joli saut du cinquième, vrai comme Dieu est mon maître. Mais figure-toi bien, toi encore, tu n'es pas mon cœur, tu n'es pas ma vie, tu n'es que mon plaisir. Mais j'ai eu un homme. Ah, je ne sais pas si je l'ai aimé, celui-là. On m'aurait charcuté pour lui sans que je dise rien. Enfin, l'homme de mon malheur. Eh bien, vois-tu, au plus fort que j'étais pincée pour lui, quand je ne soufflais que lorsqu'il voulait, quand j'étais folle et qu'il m'aurait marché sur le ventre, je l'aurais laissé marcher. Eh bien oui, à ce moment-là, mademoiselle eût été malade, elle m'eût fait signe du petit doigt que je serais revenue. Oui, pour elle, je l'aurais quitté. Je te dis, je l'aurais quitté. Alors, puisque c'est à ce point-là, ma chère, qu'on l'aime tant, sa vieille, il n'y a plus qu'une chose que je te conseille. Il ne faut plus la quitter, ta bonne dame, vois-tu?
C'est mon congé? Dit Germinie en se levant.
Ma foi, ça y ressemble.
Eh bien, adieu, ça me va. Et allant droit à la porte, elle sortit sans un mot.
Chapitre 54.
De cette rupture, Germinie tomba où elle devait tomber, au-dessous de la honte, au-dessous de la nature même. De chute en chute, la misérable et brûlante créature roula à la rue. Elle ramassa les amours qui s'usent en une nuit, ce qui passe, ce qu'on rencontre, ce que le hasard des pavés fait trouver à la femme qui vague. Elle n'avait plus besoin de se donner le temps du désir. Son caprice était furieux et soudain, allumé sur l'instant. Affamée du premier venu, elle le regardait à peine et n'aurait pu le reconnaître. Beauté, jeunesse, ce physique d'un amant où l'amour des femmes les plus dégradées cherche comme un bas idéal, rien de tout cela ne la tentait plus, ne la touchait plus. Ses yeux, dans tous les hommes, ne voyaient plus que l'homme. L'individu lui était égal. La dernière pudeur et le dernier sens humain de la débauche, la préférence, le choix, et jusqu'à ce qui reste aux prostituées pour conscience et pour personnalité, le dégoût même, elle l'avait perdu. Et elle s'en allait par les rues, battant la nuit, avec la démarche suspecte et furtive des bêtes qui fouillent l'ombre et dont l'appétit quête. Comme jetée hors de son sexe, elle attaquait elle-même, elle sollicitait la brutalité, elle abusait de l'ivresse. Et c'était à elle qu'on cédait. Elle marchait, flairant autour d'elle, allant à ce qu'il y a d'embusqué, d'impur dans les terrains vagues, aux occasions du soir et de la solitude, aux mains qui attendaient pour s'abattre sur un châle. Sinistre et frémissante, les passants de minuit la voyaient, à la lueur des réverbères, se glisser et comme ramper, courber, effacer, les épaules pliées, rasant les ténèbres, avec un de ces airs de folle et de malade, un de ces égarements infinis qui font travailler sur des abîmes de tristesse le cœur du penseur et la pensée du médecin. Chapitre 55. Un soir qu'elle rôdait dans la rue du Rocher, en passant devant un marchand de vin, au coin de la rue de la Borde, elle vit le dos d'un homme qui buvait sur le comptoir. C'était Jupillon. Elle s'arrêta court, tourna du côté de la rue, et s'adossant à la grille du marchand de vin, elle se mit à attendre. Elle avait la lumière de la boutique derrière elle, les épaules contre les barreaux, et elle se tenait immobile, sa jupe retroussée d'une main par devant, son autre main tombant au bout de son bras abandonné. Elle ressemblait à une statue d'ombre assise sur une borne. Dans sa pose, il y avait une résolution terrible, et comme l'éternelle patience d'attendre toujours. Les passants, les voitures, la rue, elle les apercevait vaguement et lointainement. Le cheval de renfort de l'omnibus pour la montée de la rue, un cheval blanc, était devant elle, immobile, éreinté, dormant sur pied, avec la tête et les deux jambes de devant dans la pleine lumière de la porte. Elle ne le voyait pas. Il brouillassait. C'était un de ces temps de Paris, sales et pourris, où il semble que l'eau qui tombe soit déjà de la boue avant d'être tombée. Le ruisseau lui montait sur les pieds. Elle demeura ainsi une demi-heure, lamentable à voir, sans mouvement, menaçante et désespérée, tout à contre-jour, sombre et sans visage, pareille à une fatalité plantée par la nuit à la porte d'un minzingue. Enfin, Jupillon sortit. Elle se dressa devant lui, les bras croisés. « Mon argent !» lui dit-elle. Elle avait la figure d'une femme qui n'a plus de conscience, pour laquelle il n'y a plus de Dieu, plus de gendarmes, plus de cour d'assises, plus d'échafaud. Plus rien. Jupillon sentit sa blague s'arrêter dans sa gorge. « Ton argent ? » fit-il. « Ton argent, il n'est pas perdu, mais il faut le temps. Dans ce moment-ci, je te dirais, ça ne va pas fort, l'ouvrage. Il y a longtemps que c'est fini, ma boutique, tu sais. Mais d'ici 3 mois, je te promets. Et tu vas bien ? » « Canaille, va !»
Ah, je te tiens donc. Ah, tu voulais filer. Mais c'est toi, mon malheur. C'est toi qui m'as fait comme je suis, brigand, voleur, filou. Ah, c'est toi.
Germinie lui jetait cela au visage, en se poussant contre lui, en lui faisant tête, en avançant sa poitrine contre la sienne. Elle semblait se frotter au cou qu'elle appelait et provoquait. Et elle lui criait, toute tendue vers lui.
« Mais bats-moi donc ! Qu'est-ce qu'il faut donc que je te dise ? Dis, pour que tu me battes !»
Elle ne pensait plus. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Seulement, elle avait comme un besoin d'être frappée. Il lui était venu une envie instinctive, irraisonnée, d'être brutalisée, meurtrie, de souffrir dans sa chair, de ressentir un choc, une secousse, une douleur qui fit taire ce qui battait dans sa tête. Des coups, elle n'imaginait que cela pour en finir. Puis, après les coups, elle voyait, avec la lucidité d'une hallucination, toutes sortes de choses se passer. La garde arrivant, le poste, le commissaire. Le commissaire, devant lequel elle pourrait tout dire, son histoire, ses misères, ce que lui avait fait souffrir cet homme, ce qu'il lui avait coûté. Son cœur se dégonflait d'avance à l'idée de se vider, avec des cris et des pleurs, de tout ce dont il crevait.
« Mais bats-moi donc !»
répétait-elle en marchant toujours sur Jupillon, qui cherchait à s'effacer, et lui jetait en reculant des mots caressants, comme on en jette à une bête qui ne vous reconnaît pas et qui veut mordre. Un rassemblement commençait autour d'eux.
« Allons, vieille pocharde, n'embêtons pas monsieur !»
fit un sergent de ville, qui, empoignant Germinie par un bras, la fit tourner sur elle-même rudement. Sous l'injure brutale de cette main de police, les genoux de Germinie fléchirent. Elle crut s'évanouir. Puis elle eut peur et se mit à courir dans le milieu de la rue. Chapitre 56. La passion a des retours insensés, des revenez-y inexplicables. Cet amour maudit que Germinie croyait tué par toutes les blessures et tous les coups de Jupillon, il revivait. Elle était épouvantée de le retrouver en elle en rentrant. La seule vue de cet homme, cette approche de quelques minutes, le son de sa voix, la respiration de l'air qu'il respirait, avait suffi pour lui retourner le cœur et la rendre tout au passé. Malgré tout, elle n'avait jamais pu arracher tout à fait Jupillon du fond d'elle. Il y était resté. Et ce choc, cette scène qui aurait dû lui donner l'horreur de le rencontrer jamais, ralluma en elle la frénésie de le revoir. Toute sa passion la reprit. La pensée de Jupillon l'emplit jusqu'à la purifier. Elle arrêta court le vagabondage de ses sens. Elle voulut n'être personne, puisque c'était le seul moyen qu'elle eut encore d'être à lui. Elle se mit à le guetter, à étudier ses heures de sortie, les rues où il passait, les endroits où il allait. Elle le suivit, au Batignolles, jusqu'à son nouveau logement, marcha derrière lui, contente de mettre le pied où il avait mis le sien, d'être menée par son chemin, de le voir un peu, de saisir un geste qu'il faisait, de lui prendre un de ses regards. C'était tout. Elle n'osait lui parler. Elle se tenait à distance, allant derrière, comme un chien perdu tout heureux qu'on ne le repousse pas à coups de talon. Elle se fit ainsi, pendant des semaines, l'ombre de cet homme. Une ombre humble et peureuse qui reculait et s'éloignait de quelques pas quand elle se croyait vue. Puis se rapprochait à pas timides, et à une marque d'impatience de l'homme s'arrêtait encore, en paraissant demander grâce. Quelquefois, elle l'attendait à la porte d'une maison où il entrait, le reprenait quand il sortait, le reconduisait chez lui, toujours de loin, sans lui parler, avec l'air d'une mendiante qui mendie des restes et remercie de ce qu'on lui laisse ramasser. Puis, au volet du rez-de-chaussée où il demeurait, elle écoutait s'il était seul, s'il n'y avait personne. Quand il était avec une femme au bras, Quoiqu'elle souffrît, elle s'acharnait à le poursuivre. Elle allait où allait le couple, jusqu'au bout. Elle entrait derrière eux dans les jardins publics, dans les bals. Elle marchait dans leurs rires, dans leurs paroles, se déchirait à les voir, à les entendre, et restait là, dans leur dos, à faire saigner toutes ses jalousies. Chapitre 57. On était au mois de novembre. Depuis 3 ou 4 jours, Germinie n'avait point rencontré Jupillon. Elle vint les pieds, le chercher près de son logement. Arrivée à sa rue, elle vit de loin une large raie de lumière filtrant par son volet fermé. Elle approcha et entendit des éclats de rire, des chocs de verre, des femmes, puis une chanson, une voix, une femme, celle qu'elle haïssait avec toutes les haines de son cœur, celle qu'elle eût voulu voir morte, celle dont elle avait tant de fois cherché la mort dans les lignes du sort, elle enfin, sa cousine. Elle se colla derrière le volet, aspirant ce qu'il disait, enfoncée dans la torture de les entendre, affamée et se repaissant de souffrir. Il tombait une pluie froide d'hiver, elle ne la sentait pas. Tous ses sens étaient à écouter. La voix qu'elle détestait semblait par moments faiblir et s'éteindre sous les baisers, et ce qu'elle chantait s'envolait comme étouffé par une bouche qui se pose sur une chanson. Les heures passaient. Germinie était toujours là. Elle ne pensait pas à s'en aller. Elle attendait sans savoir ce qu'elle attendait. Il lui semblait qu'il fallait qu'elle restât là toujours, jusqu'à la fin. La pluie tombait plus fort. De l'eau, d'une gouttière crevée au-dessus d'elle, lui battait sur les épaules. De grosses gouttes lui glissaient sur la nuque. Un froid de glace lui coulait dans le dos. Sa robe suait l'eau sur le pavé. Elle ne s'en apercevait pas. Elle n'avait plus dans tous les membres que la souffrance de l'âme. Bien avant, dans la nuit, il y eut du bruit. Un remuement, des pas vers la porte. Germinie courut se cacher à quelques pas dans le rentrant d'un mur, et elle vit une femme qu'emmenait un jeune homme. Comme elle les regardait s'éloigner, elle sentit sur ses mains quelque chose de doux et de chaud qui lui fit peur d'abord. C'était un chien qui la léchait, un gros chien qu'elle avait tenu tout petit bien des soirées sur ses genoux dans l'arrière-boutique de la crémière. « Ici, molosse !» cria 2 ou 3 fois dans l'ombre de la rue la voix impatientée de Jupillon. Le chien aboya, se sauva, se retourna en gambadant pour revenir, et rentra. La porte se referma. Les voix et les chansons ramenèrent à la même place, contre le volet, Germinie, que la pluie trempait et qui se laissa tremper en écoutant toujours, jusqu'au matin. Jusqu'au petit jour, jusqu'à l'heure où des maçons, allant à leur ouvrage, leur pain sous le bras, se mirent à rire en la voyant. Chapitre 58. 2 ou 3 jours après cette nuit passée sous la pluie, Germinie avait un visage effrayant de souffrance, le teint marbré, les yeux brûlants. Elle ne disait rien, ne se plaignait pas, faisait son service comme à l'ordinaire. « Ah, ça, toi, regarde-moi donc un peu !» lui dit mademoiselle. Et l'attirant brusquement toujours, « Qu'est-ce que c'est que ça, cette mine de déterré, là? Allons, voyons, tu es malade! Mon Dieu, as-tu chaud aux mains ?» Elle lui prit le poignet et lui rejetant le bras au bout d'un instant. « Comment, chienne de bête, tu as une fièvre de cheval et tu gardes ça pour toi ?»« Mais non, mademoiselle, » balbutia Germinie, « je crois que c'est un gros rhume, tout bonnement. Je me suis endormie l'autre soir, la fenêtre de ma cuisine ouverte. »« Oh, toi d'abord, » reprit mademoiselle, « tu crèverais que tu ne ferais pas seulement ouf. » « Attends !» Et, mettant ses lunettes, roulant vivement son fauteuil à une petite table auprès de la cheminée, elle se mit à écrire quelques lignes de sa grosse écriture. « Tiens, » fit-elle en pliant la lettre, « tu vas me faire le plaisir de donner cela à ton amie Adèle pour le faire porter par le portier. Et maintenant, à la paille !» Mais Germinie ne voulut jamais aller se coucher. Ce n'était pas la peine. Elle ne se fatiguerait pas. Elle resterait assise toute la journée. D'ailleurs, le plus fort de son mal était passé. Elle allait déjà mieux. Et puis, le lit, pour elle, faisait mourir. Le médecin, appelé par le mot de mademoiselle, vint le soir. Il examina Germinie et ordonna l'application de l'huile de croton. Les désordres de la poitrine étaient tels qu'il ne pouvait encore rien dire. Il fallait attendre l'effet des remèdes. Il revint au bout de quelques jours, fit coucher Germinie, l'ausculta longuement. « C'est prodigieux !» dit-il à mademoiselle quand il fut redescendu. « Elle a eu une pleurésie et ne s'est pas alitée un moment. C'est donc une fille de fer ! Oh, l'énergie des femmes ! Quel âge a-t-elle ?
41 ans.
41 ans ? Oh, c'est impossible ! Vous êtes sûr ? Elle en paraît 50.
Ah, pour paraître, elle paraît tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Jamais de santé, toujours à être malade, des chagrins, des misères, et puis un caractère à se tourmenter toujours.
41 ans, c'est étonnant, répéta le médecin.
Il reprit après une seconde de réflexion. Y a-t-il eu dans sa famille, à votre connaissance, des affections de poitrine ? A-t-elle eu des parents qui soient morts ?
Elle a perdu une sœur d'une pleurésie, mais elle était plus âgée. Elle avait 48 ans, je crois.
Le médecin était devenu sérieux.
Enfin, la poitrine se dégage, dit-il d'un ton rassurant. Mais il est de toute nécessité qu'elle se repose. Et puis, envoyez-la-moi une fois par semaine, qu'elle vienne me voir, qu'elle prenne pour cela un beau temps, un jour de soleil.
Chapitre 59. Mademoiselle eut beau parler, prier, vouloir, gronder, elle ne put obtenir de Germinie qu'elle discontinue à son service pendant quelques jours. Germinie ne voulut même point entendre parler d'une aide qui ferait le plus gros de son ouvrage. Elle déclara à mademoiselle que c'était impossible et inutile, qu'elle ne se ferait jamais à l'idée d'une autre femme l'approchant, la servant, la soignant, que rien que cette idée dans son lit lui donnerait la fièvre, qu'elle n'était pas encore morte, et que tant qu'elle pourrait mettre un pied devant l'autre, elle suppliait qu'on la laissât aller. À dire cela, elle mit un accent si tendre, ses yeux priaient si bien, sa voix de malade était si humble et si passionnée dans sa demande, que mademoiselle n'eut pas le courage de la forcer à prendre quelqu'un. Elle la traita seulement de tête de bois, de bête brute, qui croyait, comme tous les gens de la campagne, qu'on est mort pour quelques jours passés au lit. Se soutenant avec une apparence de mieux, due à la médication énergique du médecin, Germinie continuait à faire le lit de mademoiselle qui l'aidait à soulever les matelas. Elle continuait à lui faire à manger, et cela surtout lui était horrible. Quand elle préparait le déjeuner et le dîner de mademoiselle, elle se sentait mourir dans sa cuisine, une de ces misérables petites cuisines de grande ville qui font tant de femmes pulmoniques. La braise qu'elle allumait, et d'où se levait lentement un filet de fumée âcre, commençait à lui faire défaillir le cœur. Puis bientôt le charbon que lui vendait le charbonnier d'à côté, du fort charbon de Paris, plein de fumerons, l'enveloppait de son odeur entêtante. Le tuyau de tirage, crassé et rabattant, le manteau bas de la cheminée, lui renvoyait dans la poitrine la malsaine respiration du feu et l'ardeur corrodante du fourneau à hauteur d'appui. Elle suffoquait. Elle sentait le rouge et le chaud de tout son sang lui monter à la figure et lui faire des plaques sur le front. La tête lui tournait.
Dans la demi-asphyxie des blanchisseuses qui repassent au milieu de la vapeur des réchauds, elle se jetait à la fenêtre et humait un peu d'air glacé. Pour souffrir debout, aller toujours malgré ses défaillances, elle avait plus que la répulsion des gens du peuple à sa litté, plus que la furieuse et jalouse volonté de ne pas laisser les soins d'une autre entourer mademoiselle. Elle avait la terreur de la délation, qui pouvait entrer avec une nouvelle domestique. Il fallait qu'elle fût là pour garder mademoiselle et empêcher qu'on approchât d'elle. Puis il fallait encore qu'elle se montrât, que le quartier la vît, et qu'elle n'eût pas un air de morte pour ses créanciers. Il fallait qu'elle fît semblant d'avoir même des forces, qu'elle jouât l'apparence et la gaieté de la vie, qu'elle donnât confiance à toute la rue avec les paroles arrangées du médecin, avec une mine d'espérance, avec la promesse de ne pas mourir. Il fallait qu'elle fît bonne figure pour rassurer ses dettes, pour empêcher les alarmes de l'argent de monter l'escalier et de s'adresser à mademoiselle. Cette comédie horrible et nécessaire, elle la souta. Elle fut héroïque à faire mentir tout son corps, redressant devant les boutiques qui l'épiaient sa taille affaissée, pressant son pas traînant, se frottant les joues avant de descendre avec une serviette rude pour y rappeler la couleur du sang, pour farder sur son visage les pâleurs de son mal et le masque de sa mort. Malgré la toux atroce qui secouait toute la nuit ses insomnies, malgré le dégoût de son estomac repoussant la nourriture, elle passa ainsi tout l'hiver à se vaincre et à se surmonter, à se débattre avec les hauts et les bas de la maladie. Chaque fois qu'il venait, le médecin disait à mademoiselle qu'il ne voyait chez sa bonne aucun des organes essentiels à la vie attaqué d'une manière grave. Les poumons étaient bien un peu ulcérés en haut, mais on guérit de cela. Seulement, c'est un corps bien usé, répétait-il avec un certain accent triste, un air presque embarrassé qui frappait mademoiselle. Et il parlait toujours, à la fin de ses visites, de changement d'air, de campagne.